Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Voilà. Alors, le titre de cette conférence, c'est le témoignage d'un exorciste. Je vais essayer de vous parler d'abord de la réalité du combat spirituel. On va parler de l'existence du diable, mais très rapidement. On va insister un peu plus sur les influences démoniaques qui sont bien réelles, essayer de les nommer. On va aussi essayer de nommer les pratiques qui ouvrent à ces influences démoniaques. Je crois que c'est important aujourd'hui d'en avoir conscience et de les dénoncer surtout. Et puis enfin, dernier point, comment résister au démon et échapper à son emprise. Voilà. Vous voyez, le menu est assez copieux. Alors d'abord, la réalité du combat spirituel, si l'on se réfère à la tradition de l'Église et notamment à Saint Jean de la Croix, eh bien, on sait qu'il y a trois ennemis dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Dieu. Ces trois ennemis sont ce qu'on appelle le monde, dans le sens le monde sans Dieu. Le démon, les deux sont extérieurs à l'homme, et puis ce que la Bible va appeler le vieil homme. Bon, en français moderne, ça sera notre ego. Et Saint Jean de la Croix nous dit que pour surmonter l'un de ces trois ennemis, il faut les terrasser tous les trois. L'un d'entre eux étant affaibli, les deux autres manquent de force, et quand les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. Je vous rappelle que Jésus nous dit « Sur moi, le prince de ce monde ne peut rien. » Alors, le vieil homme, je n'ai pas trop besoin de vous en parler, hein, cette partie de nous-mêmes dont saint Paul dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Romains 7. On va dire que c'est ce moi égocentrique qui fait qu'on croit aimer, mais en fait, on n'aime pas vraiment. On aime de cet amour très narcissique, et c'est souvent le cas, malheureusement, le vieil homme. Ensuite, vous avez le monde sans Dieu. On va dire ce sont les modes qui nous entraînent, l'esprit du monde. Finalement, nous nous laissons formater assez facilement. Attention aux influences, notamment médiatiques. Choisissez bien vos influences. Quand vous passez beaucoup de temps sur les écrans, essayez de sélectionner vos écrans, car la manipulation existe, oui. Et on pourra dire, mais si, mais tout le monde le fait, tout le monde le pense, alors j'y vais. Bref, nous ne sommes pas des moutons. Mais le monde sans Dieu est notre ennemi, oui. Un ennemi de l'âme. On va appeler bien ce qui est objectivement mauvais. Qui a le courage aujourd'hui de dénoncer l'avortement? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est qu'un exemple. Et enfin, le monde, après le monde et l'ego, nous avons le démon, on va en parler un peu plus. Certains ne croient pas en l'existence des anges, je suis désolé pour eux, mais c'est un article de foi. Vous le trouvez dans le catéchisme de l'Église catholique. Et à chaque fois que nous professions notre foi, eh bien, nous allons affirmer que nous croyons que Dieu est créateur du monde visible et invisible. Et les anges font partie de ce monde invisible, ils sont serviteurs et messagers de Dieu, et l'on sait que certains anges n'ont pas voulu poursuivre, ils n'ont pas voulu servir. La chute des anges, pour ceux qui ne croient pas que le démon existe, il est cité quand même 20 fois dans l'Ancien Testament et 84 fois dans le Nouveau Testament. Et dans l'évangile de Saint Marc ainsi que l'évangile de Saint Luc, le premier miracle de Jésus est un exorcisme. Alors, nous n'allons pas nous arrêter sur un argumentaire pour dire que le démon existe, c'est acquis. Oui, il existe. Et quelle est la stratégie du démon ? On va faire vite. Eh bien, c'est l'inverse de la foi, de l'espérance et de la charité. À la place de la foi, c'est la défiance. Je n'ai pas confiance. Et je suspecte une suspicion, une non-adhésion, une révolte. La désespérance, bien sûr. Et enfin, l'inverse de l'amour qui n'est pas seulement la haine. L'inverse de l'amour est aussi cet amour, on peut peut-être appeler parfois philotia ou filiar, un amour très égotique. Et on va appeler ça de l'amour. Je t'aime. Bof. Les déviations de l'amour peuvent être vraiment démoniaques. L'inverse des deux qualités de l'école de Jésus, il est doux et humble. Bien, à la place de l'humilité, vous mettez l'orgueil, l'orgueil de celui qui croit qu'il peut se passer de Dieu. Le chiffre 666, sixième jour, création de l'homme. On n'a plus besoin du septième jour. Nous sommes faits pour nous reposer en Dieu. Le repos qui est une intensité d'amour, l'ambiance du cantique des cantiques. Le démon n'en veut pas et il veut rester au chiffre 6. Il n'a pas besoin de Dieu et ça sera 3 fois 6. Et la dureté va évidemment remplacer la douceur. C'est la condamnation. C'est l'accusateur de nos frères. L'inversion des œuvres de Dieu, au lieu de créer, on détruit. Regardez ce qui se passe en Syrie, dans le nord-ouest de la Syrie en ce moment. C'est proprement démoniaque, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, l'absence de pardon au lieu de la rédemption. Les thèmes, les conseils évangéliques sont retournés, il n'y a plus d'obéissance. C'est la révolte, la désobéissance, bien sûr. Il n'y a pas de pauvreté évangélique dans le sens du partage. C'est tout pour moi. Et il n'y a pas de chasteté dans le sens de la saine distance. C'est le plaisir immédiat. Un seul clic et vous avez tout. Les thèmes sataniques, malheureusement, on les a vus dans certains spectacles. Assez suivi d'ailleurs, notamment au mois de juillet dernier, au niveau national. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez le blasphème, vous avez le symbole de la mort, le sang, vous avez la sexualité déviée et rajoutez la toute-puissance personnelle. On veut des pouvoirs. Si vous allez sur les sites de la franc-maçonnerie, on vous promet des pouvoirs, oui. Alors, lorsque vous voyez ces thèmes-là, le pouvoir du fort sur le faible, notamment, j'allais dire, méfiez-vous, ça sent le roussi. Alors, il est vrai que l'ennemi, celui que Jésus appelle le prince de ce monde, a du pouvoir. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. » Vous voyez, c'est un peu énorme. Hein. Le monde entier est au pouvoir du mauvais. D'ailleurs, Jésus, le diable, lorsqu'il amène Jésus sur la montagne, au moment des tentations, il va déclarer que tous ses royaumes lui ont été remis. Bon, il est menteur. Certes, il a du pouvoir. Mais la mission de Jésus, c'est de détruire définitivement ce pouvoir. 1 Jean 3, 8, le Fils est apparu pour détruire les œuvres du diable. Hébreux 2, 14, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort. Bon, on pourrait en citer d'autres. Voilà, le rôle du Seigneur, c'est de casser véritablement le pouvoir qui est réel du démon. Par contre, il ne va pas le faire sans nous. Ce combat spirituel, y compris contre le démon, nous concerne chacun personnellement. À nous de prendre des bonnes armes pour mener ce combat qui est décrit dans l'Apocalypse notamment, chapitre 12, où on voit ce fameux dragon devant la Vierge qui enfante, et il va poursuivre, eh bien, ce dragon, il va mener la guerre aux enfants de Dieu. Alors, quelles sont les influences démoniaques sur nous? En quoi nous sommes concernés par les influences démoniaques? Eh bien, on va distinguer les influences ordinaires et les influences extraordinaires. Alors, nous sommes tous concernés par les influences ordinaires. La première influence ordinaire, bien sûr, c'est la tentation. Jésus a été tenté par le démon. Nous n'en faisons pas l'économie. Vous allez me dire, oui, mais on est quand même tenté parce que c'est quand même nous. D'accord. Sauf que dans cette tentation, il y a une incitation éventuellement démoniaque et de l'autre ennemi de l'âme qui est le monde. Ces deux acteurs vont nous inciter à tomber dans la tentation. Et c'est vrai que nous sommes tentés, c'est l'épître de Saint Jacques qui nous le dit, à cause de notre malice. Deuxième influence ordinaire, ce qu'on va appeler le lien de péché. Le lien de péché, c'est comme une addiction, si vous voulez. C'est une addiction éventuellement à des pensées mauvaises. On n'arrive pas à ne pas juger les autres. On n'arrive pas à avoir une attitude positive. C'est ancré comme en nous. Le négatif est comme rentré en nous. Et ça s'appelle aussi le lien de péché. On va avoir des habitudes addictives qui nous font tomber dans certains péchés. Voilà. Et des comportements qui sont, soi-disant, plus forts que nous. Enfin, dans ces liens de péché, on va aussi citer les relations tordues avec un tel ou un tel. J'ai connu des familles qui avaient leurs guérisseurs. On reparlera des guérisseurs tout à l'heure. Impossible pour eux de couper avec le guérisseur. Bon. C'est juste un exemple. Ou dans certaines relations affectives, hyper fusionnelles. Vous voyez ? Laisse-moi être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, ça vous dit quelque chose? Eh bien, comment sortir de ces enfermements où finalement l'autre a une emprise sur nous ou j'ai une emprise sur l'autre. Des schémas qui relèvent du lien de péché. On croit aimer, on n'aime pas. Je suis tellement attaché à cette personne. C'est pas de l'amour, désolé. C'est un lien où tu vas manger l'autre. Tu vas profiter de l'autre. Alors que dans l'amour agapé, c'est-à-dire évangélique, on va dire à l'autre, je t'aime parce que c'est toi. C'est une intelligence sur l'autre qui mérite notre émerveillement. C'est bien autre chose que je t'aime parce que j'ai vraiment besoin de toi, ne me quitte pas. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça ce sont les liens de péché. Bien être conscient de cela. Vous avez un autre niveau, on va passer assez vite parce qu'on pourrait faire une heure là-dessus, ce qu'on appelle les malédictions de péché. C'est vrai qu'en théologie catholique, on n'en parle pas beaucoup, des malédictions. Or, le Deutéronome, chapitres 27 et 28, nous parle de malédictions. Deutéronome 27, verset 26. « Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Alors, on voit que la loi de Dieu, les 10 commandements, vous vous rappelez les 10 commandements, c'est pas juste une loi de morale, soyez gentil, soyez poli, c'est en fait le mode d'emploi de la vie. Lorsque vous dites à votre enfant, ne mettez pas ta main dans le feu, il en va de quelque chose de vital. Eh bien, la loi de Dieu, c'est pareil. Si tu touches ça, il y a quelque chose de ta vie qui va être abîmé, et peut-être longtemps. On en reparlera tout à l'heure. Deutéronome 28, 15. Si tu n'obéis pas au Seigneur ton Dieu, en veillant à pratiquer tous les commandements et préceptes que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Alors là, c'est assez impressionnant. Vous lirez, si vous le voulez, Deutéronome 28, 15. Je voulais juste vous lire le début. Maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs, maudit seront ton panier et ta huche à pain, écoutez bien, maudit seront le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants. Parlons de la malédiction de péché. Ben oui, elle existe. Alors, il y a toute une énumération, je ne vais pas vous la faire, on n'a pas le temps. Pour relire Exode 34, bien sûr, le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Troisième, quatrième, bon, on peut penser que ce sont des chiffres symboliques. Alors, souvent, on se chamaille un petit peu entre théologiens parce que certains autres théologiens vont vous dire « Mais oui, mais il y a Ézéchiel 18, on ne dira plus, voilà ce proverbe, les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en seront irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe. » Alors, ouf, il n'y a plus de malédiction de péché. Bon, c'est pas si net que ça, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une différence à faire entre la peine de péché, qui est personnelle, elle est temporelle ou éternelle, et la malédiction de péché, effectivement, lorsqu'une âme s'élève, elle élève le monde, mais lorsqu'une âme s'abaisse, elle abaisse le monde. Vous avez reconnu cette citation d'Élisabeth Le Sueur, qui est faite par Jean-Paul II, dans son encyclique sur la réconciliation. Parlons maintenant des influences démoniaques extraordinaires. Donc normalement, vous êtes un peu moins concernés, mais enfin, qui sait? Elles peuvent être soit extérieures à l'homme, soit directes sur l'homme. On va commencer par celles qui sont extérieures à l'homme dans les lieux, les maisons, etc., les objets, les animaux, certaines situations, bon, quelques exemples, des objets qui disparaissent et éventuellement réapparaissent. Et oui, ça existe. Ça existe. Des bruits dans la maison, des esprits dits frappeurs, mais pas que. Des pannes inexplicables, vous faites venir le réparateur, tout marche bien. Des feux déclenchés sans cause, sans aucune explication. Des problèmes matériels à répétition. Ou alors les appareils qui se mettent en route tout seuls. Parlais hier soir d'une comptoise qui n'avait jamais sonné. Et à partir d'un événement spirituel précis, je ne vais pas le dévoiler, elle s'est mise à sonner. Yes. Bon, enfin bref, tout ça, ça existe. On n'a pas besoin de partir en Afrique pour voir que ça existe. Moi, j'ai vécu au Togo et effectivement, j'ai pu être témoin de situations de sorcellerie assez salées. Mais en France, ça existe aussi. Et notamment dans des milieux très jeunes. Notamment dans le satanisme, on en parlera tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'adolescents qui sont recrutés. Alors les influences directes sur l'homme, il y en a qui sont graves ou moins graves. On va commencer par les moins graves. Ce qu'on appelle la vexation ou l'oppression, c'est le corps qui est concerné. C'est-à-dire que vous avez des maladies inexplicables, ça arrive tout d'un coup. Et en fait, aucune explication médicale, et on prie, et puis tout disparaît. Voilà, alors c'est, ça peut être aussi, pas seulement des maux, des mal-être physiques, mais aussi des griffures, des brûlures. Quelqu'un qui va venir cette semaine, il a un espèce de tatouage qui est apparu sur son corps, une croix renversée, tatouée sur le corps. Et ces tatouages-là, bon, j'ai déjà rencontré ça dans ma vie d'exorciste. Au niveau médical, c'est pas extérieur, c'est ça qui est bizarre. Il y a des analyses qui ont été faites, c'est intérieur à la peau, donc c'est quand même assez spécial, si vous voulez. Voilà, des brûlures, des griffures et des influences sur les cinq sens. Vous allez entendre des voix, des bruits. Alors attention, ça peut être psy. Parce que en schizophrénie, vous avez aussi ce genre de phénomène. D'accord ? Donc évidemment, il faut discerner. Voilà. On aura du mal à s'exposer à la lumière. On aura du mal à supporter, par exemple, le contact de l'eau et à se laver, donc. On aura aussi des odeurs fétides, épouvantables. Ou alors plus d'odorat, du coup. Bon, du tout. Alors, ça, c'est un premier niveau. Il n'est pas complet. Il faut qu'on passe assez vite. Le niveau du dessus, on l'appelle obsession. En général, ça intègre les vexations. Mais ça va intégrer le niveau spirituel et le niveau psychique. C'est-à-dire, au niveau spirituel, on aura beaucoup de mal avec les vertus théologales de foi, d'espérance, de charité, et il y aura des embûches, des vraies embûches, dès que nous voulons avoir une démarche spirituelle. Impossible, par exemple, de faire le signe de croix. Impossible de prier, c'est-à-dire vous commencez à prier, et puis boum, votre bouche ne peut plus bouger, vous ne pouvez plus continuer la prière. Et des blasphèmes, de préférence si vous êtes à la messe pendant la consécration. Ça Ça a été le cas du père Verlaine, hein, si vous le connaissez, qui avait fait donc toute une initiation aux sciences occultes. Il était très fort, il pouvait léviter, il a passé du temps en Inde. Et lorsqu'il est revenu en France, il s'est aperçu aussi qu'à chaque messe, enfin d'abord que ce n'était pas de Dieu ces trucs-là, et qu'à chaque messe, eh bien, il entendait des blasphèmes, et pendant la consécration. Et là, il a eu besoin de plusieurs années d'exorcisme. Voilà, on aura beaucoup de mal aussi à entrer dans une église, etc. Toute personne consacrée à Dieu nous sera plutôt désagréable. Enfin bref, voilà. Au niveau psychique, on aura du mal aussi à réfléchir. Il y a des blocages. Au niveau de la volonté, certains comportements seront assez insurmontables. Bref, d'une façon générale, un impact sur les facultés mentales. On va rajouter la mémoire et l'affectivité. Tout ça est comme bloqué. Ce qui entraîne évidemment beaucoup de handicaps dans la relation aussi à la vie tout simplement, un dégoût de tout, des pensées négatives, souvent un désir de suicide, de mort, une violence à l'intérieur, une insécurité très profonde, des insomnies, des cauchemars, et aussi un enfermement dans des addictions, la drogue, l'alcool, les jeux, une vie sexuelle désordonnée. Bref, tout ça peut faire partie aussi, attention, du combat ordinaire. Enfin, le dernier degré, ce sera la possession diabolique. C'est-à-dire que là, la différence avec ce qu'on a vu avant, c'est que la volonté est prise. Et en tout cas, dans mon expérience, la possession, ça marche par crise. Où la personne qui souffre de possession même ne se souviendra pas de ce qu'elle a fait pendant une heure, par exemple. Ou si vous avez lu le livre « J'ai quitté Satan », c'est un peu difficile à lire, c'est l'histoire d'une certaine Michelle qui raconte comment elle est rentrée dans le satanisme, comment elle en est sortie. Mais une de ses missions en tant que sataniste, c'était d'aller tuer la fondatrice de Nuovi Orizzonti en Italie. Et elle raconte comment elle est accueillie par la fondatrice elle-même qui la prend dans ses bras. Et elle fonce, c'était la première fois de sa vie qu'une femme la prenait dans ses bras. Et elle raconte comment elle aura une crise de possession où, avec un couteau, elle va essayer de tuer cette pauvre femme qui a le bon réflexe. Elle invoque le nom de Jésus. Et le couteau tombe. Alléluia. Alors, quelles sont les pratiques ou les situations qui peuvent favoriser ou susciter des infestations diaboliques? On va dire qu'il y a 4 portes ouvertes aux infestations, je dirais même aux influences, parce que finalement ça va concerner aussi le combat ordinaire. Et il y a 4 facteurs aggravants. Alors les 4 portes ouvertes, 1. Le péché, 2. L'hérédité, 3. Les emprises maléfiques, 4. Les blessures graves de l'enfance. 4 facteurs aggravants, la médiumnité naturelle, on y reviendra tout à l'heure, cette hypersensibilité. 2. La modification des états de conscience, notamment à travers la drogue, l'alcool, etc. 3. Les troubles psychologiques ou psychiatriques. 4. Les persistances de schémas mentaux, négatif ou d'habitude pécamineuse. Ce sont les liens de péché. Alors, on va essayer de scanner tout ça, mais on va le faire assez rapidement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors d'abord, le péché personnel. Eh bien, on n'a qu'à suivre finalement l'ordre des 10 commandements. Vous vous rappelez les 10 commandements, les 3 premiers commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, voilà, lui seul. Tu ne jureras pas le nom de Dieu. Et troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voilà. Alors, les péchés contre les premiers commandements, c'est d'abord l'occultisme et les phénomènes paranormaux. L'occultisme avec ses trois volets, on va dire, pour simplifier, la divination, le spiritisme et la magie. Commençons par la divination. On va voir les voyants, les médiums, les astrologues, ceux qui pratiquent le tarot. Toujours pour le but de connaître ce qu'on ne connaît pas. Donc, on veut par exemple connaître son avenir. Pensez bien que, enfin, j'espère que vous croyez, comme moi, que l'avenir, notre avenir, Dieu seul le connaît. Que la voyante que je veux aller voir, elle ne connaît pas mon avenir. Par contre, elle a accès, effectivement, par sa médiumnité, au monde préternaturel, ce que j'appelle le monde préternaturel. C'est-à-dire, c'est le naturel qu'on ne voit pas. Ce monde invisible, d'accord, où il y a des énergies, des tas de choses qu'on ne voit pas. On va les appeler les énergies. Les entités, je ne sais pas, voilà. Ça, j'emploie exprès, vous avez vu, un langage plutôt New Age. En tout cas, maintenant, on va parler plutôt avec des termes bibliques. La Bible nous dit que les anges, les démons, ont été jetés sur la terre. Apocalypse 12. Donc, si vous avez des dons, de médiumnité, vous avez accès effectivement à cet invisible et y compris finalement vous avez accès parfois aux pensées de l'autre, vous avez accès à la pensée du démon, et oui, ou plutôt le démon a accès à votre pensée, d'accord ? Et quand cette dame ou ce monsieur médium que vous allez consulter vous dit « voilà ce qui va vous arriver », eh bien, dites-vous que c'est soit le plan de la personne, soit c'est le plan du démon. On a un ami prêtre, le père Emels, peut-être certains d'entre vous le connaissent, il est en Belgique et il a un ministère encore peut-être aujourd'hui où il va dans les écoles pour dire ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire attention, il y a des choses qui sont sulfureuses et dangereuses. Et à la fin de son intervention, il y a une jeune fille qui lui dit « voilà mon père, avec ma copine, il y a 2 ans, on a été voir une voyante. » Puis elle nous a dit « ah, c'est affreux !» À 18 ans, vous allez mourir. Et sa copine était morte après ses 18 ans. Et cette jeune fille allait avoir 18 ans. Le père a juste prié sur cette personne pour casser ce plan démoniaque. Ça marche comme ça. N'allez pas voir les voyants, ni les médiums. C'est ce qui s'appelle la divination. Et on va vous parler éventuellement de la réincarnation, de vos vies précédentes. Bon, je vous rappelle qu'on ne meurt qu'une fois. Ce que dit l'Épître aux Hébreux. Voilà. Le spiritisme, cet autre volet de l'occultisme, Donc, pratiquer le spiritisme, ça veut dire interroger les morts. Ça marche. Sauf que, est-ce que vous pensez que c'est vraiment les morts qui répondent? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Donc, il y aurait beaucoup, beaucoup de témoignages à donner. On peut donner le témoignage de notre ami Roland. Là. Certains d'entre vous le connaissent. Si vous venez de temps en temps au premier samedi du mois à Notre-Dame-d'Avette, notre ami Roland, il pratiquait ce genre de choses en faisant tourner un verre avec l'alphabet. Là. Bon. Ce jour-là, parce que il était très fort, ce jour-là, ça ne marchait pas. Alors, il s'est mis en colère. Et puis, il insistait, « Esprit, qui es-tu ?» Et le verre, il a fait « S-A-T-A-N » et « Plaf !» Après, il est parti, il s'est envolé et il s'est jeté sur une baie vitrée pour l'éclater en mille morceaux. Et au même moment, il y a eu tous les radiateurs qui se sont mis à faire beaucoup de bruit. Alors, en fait, ça a été le début de sa conversion. Alléluia. Donc, ne pratiquez pas le spiritisme, s'il vous plaît. L'écriture automatique fait partie aussi de ces choses très dangereuses. Bon, la magie, elle peut être blanche, rouge, rose ou noire. La magie blanche, j'espère que je vais vous convaincre, elle est toujours mauvaise. La magie blanche, c'est en vue de la guérison. Vous allez voir un magnétiseur, vous allez voir un guérisseur qui va arriver à faire passer vos brûlures, vos zonas et tous vos problèmes de verrues, etc. Bon, je vous recite, peut-être certains ont entendu ce témoignage d'une personne, quand j'étais encore en Vendée, qui vient me voir à la fin d'une messe et qui me dit « Mon père, on m'a demandé de venir vous donner mon témoignage ». Alors, cette dame, elle était bourrée d'eczéma et les médecins ne pouvaient rien. Ça faisait des années, hein, des années. Et elle a été voir le traiteur, on les appelle comme ça en Vendée, et bien n'empêche que tout est parti. Waouh, tout est parti, mais elle était quand même assez étonnée. Et l'après-midi, elle est allée à l'adoration du Saint-Sacrement, et dans son cœur, elle a dit à Jésus, « Si c'est pas de toi, fais-le-moi savoir. » Mais figurez-vous que tout est revenu. Instantanément, tout est revenu. Alors, j'espère que je vous convainc de ne pas aller voir les guérisseurs. Nous avons exorcisé et aidé plusieurs guérisseurs. Il y en a une que vous avez peut-être connue. Je ne sais pas si elle va venir ici, Laurence, qui est dans le Pays Basque. Ça fait maintenant un an qu'elle a tout arrêté. On a connu Jacques, grand magnétiseur. Il est venu témoigner à Abette. Enfin, vous trouverez son témoignage sur le site de la paroisse de Puyot. Voilà. N'allez pas voir les guérisseurs, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, vous voyez, avoir des influences démoniaques. Car quand les choses viennent du démon, il se fait payer, rien n'est gratuit. Et après, vous allez vous étonner que vous n'arrivez plus à prier, que vous avez le cafard régulièrement, l'esprit de mort. Ça, c'est assez classique. Au moins, c'est deux symptômes. La magie rose ou magie rouge, tout simplement pour faire en sorte que une telle ou un tel devienne amoureux de vous, enfin que vous puissiez. Voilà. Alors, il semblerait qu'au Maroc, on est assez fort pour en magie rose. La magie noire, c'est pour faire du mal, donc vous comprendrez que c'est mauvais, et c'est vrai que ça peut marcher assez gravement aussi. la sorcellerie, et finalement le satanisme. J'ai rencontré dans mon ministère plusieurs personnes qui avaient fait des pactes avec Satan, notamment un jeune. Il a pactisé avec son sang. Deux jeunes, mais très jeunes, 14 ans. Et donc, on a un qui avait du mal quand même à renoncer à son pacte, donc j'ai refusé de prier pour lui. Et il est revenu 2 ans après. Entre-temps, son père est mort. C'était difficile. Et il a accepté de renoncer à son pacte. Il a été libéré, mais c'est une libération coûteuse. C'est pas si facile. Voilà. Alors, pardon, j'ai un peu insisté sur l'occultisme, parce que nous sommes effectivement dans un temps où on se précipite assez facilement chez les guérisseurs et il y a une certaine fascination à propos des pouvoirs occultes. Maintenant, on va aller un peu plus vite. Les péchés contre Dieu, l'idolâtrie, les démarches spirituelles non chrétiennes, notamment si vous êtes africain, mais il n'y en a pas beaucoup parmi nous, il y en a un peu, ou dans ces cultures, vous avez des initiations où vous allez en fait être comme consacré à un fétiche qui n'a rien d'autre qu'un démon. Ensuite, ce qu'il faut citer, c'est les problématiques par rapport à la mort, avoir tué ou essayé de tuer, avoir attenté à sa vie, être le père ou la mère d'un enfant avorté. Je vous rappelle ce que dit Jean-Paul II dans Evangelium Vitae numéro 20, le deuxième concile de Vatican, le définit l'avortement comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. C'est très dur à entendre, oui, parce que le monde va anesthésier nos consciences. Mais sachons qu'un avortement a des conséquences spirituelles graves pour la famille et aussi pour la descendance. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Zachary King sur la chaîne de Notre-Dame, Mère de la Lumière. Zachary King, qui était sataniste, qui s'est converti. Et l'un de ses travaux en tant que sataniste, c'était de provoquer des fausses couches ou des avortements. Et lui nous dit, en tant qu'ancien sataniste, l'avortement est toujours un sacrifice à Satan. Qu'on se le dise. L'addiction, les addictions à tout ce qui peut stimuler l'hypersensibilité, c'est-à-dire la drogue, par exemple, l'alcool, de façon abusive, et tout ce qui vous fait travailler des énergies paranormales, notamment dans certaines techniques orientales ou le chamanisme. La sexualité désordonnée, vous savez, si l'Église, dans sa pédagogie, nous demande de ne pas avoir de relations sexuelles avant mariage, lorsqu'on est avec le Christ, c'est aussi parce que la relation sexuelle est une relation non seulement de corps à corps, mais d'âme à âme. Et qui dit une relation d'âme à âme, dit aussi, eh bien, la relation avec tout un environnement spirituel. Et si la personne avec qui vous avez des relations est infestée, eh bien, vous en profitez aussi, façon de parler. Par rapport à la sexualité, évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la pornographie va entraîner des infestations qui malheureusement peuvent toucher aussi vos enfants, si vous êtes parents. Il faut le savoir. L'hérédité, on va aller assez vite maintenant, l'hérédité, effectivement, si vous avez des membres de votre famille qui ont été impliqués dans des péchés graves ou qui ont fait partie de sociétés secrètes inconciliables avec la foi chrétienne, comme la franc-maçonnerie, eh bien, vous allez en profiter aussi, car vous savez que la franc-maçonnerie est luciférienne. Je vous renvoie aux ouvrages de Serge Abad Galardeau, un ancien franc-maçon qui risque sa vie d'ailleurs. Quand dans votre famille vous avez eu des pactes avec l'ennemi, bien sûr, des pratiques contre la vie, meurtre, suicide, avortement, etc., des malédictions, voilà. Vous avez un autre chapitre, la troisième type de porte ouverte, ce sont les emprises maléfiques subies. Ben oui, la sorcellerie, ça existe, ça peut nous atteindre. Donc, éventuellement, si vous êtes des gens très très sensibles spirituellement, enfin, j'allais dire pas spirituellement, vous voyez, dans le niveau préternaturel, une sensibilité, eh bien, vous allez capter peut-être des choses quand vous passez dans des lieux malsains. Lorsque vous vous exposez par des spectacles, notamment, à des messages ou des influences diaboliques. Ce qui est le cas si, par exemple, vous allez écouter des musiques porteuses de messages maléfiques. Pense à Beyoncé, Katy Perry, Marilyn Manson, Lady Gaga, le groupe Behemoth, le groupe Belphégor, etc. On peut pas la peine de leur faire de la publicité, mais ça peut être un peu dangereux, effectivement, de vous exposer à ces choses-là. Et enfin, des contagions liées à des lieux ou des objets infestés. On ramène parfois des masques africains qui ont servi, oui, et on les met dans son salon. Ne vous étonnez pas, dans ce cas-là, de ne pas bien dormir la nuit. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Et les masques, on en a fait un feu. C'est vrai qu'on dormait assez mal. Bon, ça ne veut pas dire que tous les masques sont mauvais, hein, mais ce qui a servi, oui, bien sûr. Quatrième porte ouverte, ce sont les blessures intérieures graves, des traumatismes ponctuel, intense, subi, ça peut être même in utero, dans le ventre de notre maman, si elle a vécu des choses extrêmement difficiles au moment de la grossesse. Bien sûr, toutes les violences et abus sexuels dans la petite enfance. Et puis tous ces emprises, ces manipulations chez l'enfant, chez l'adolescent, qui peuvent malheureusement laisser des traces. Quels sont les facteurs aggravants ? Les facteurs aggravants, ce sont les troubles psychologiques ou psychiatriques. Oui, lorsqu'une personne a un problème psychiatrique, on va d'abord l'envoyer en psychiatrie. On ne peut pas très difficilement mener une prière d'exorcisme sur une personne trop fragile à ce niveau-là. Les modifications des états de conscience, c'est-à-dire sous hypnose par exemple, les transes, les états seconds, lorsqu'on est sous stupéfiant. On en a parlé tout à l'heure, l'hypersensibilité ou la médiumnité. On peut être récepteur ou émetteur lorsqu'on est médium. Finalement, c'est toute relation désordonnée avec le monde invisible, notamment en manipulant ses énergies. On a parlé d'aller voir les guérisseurs. Et enfin, la persistance de schémas mentaux négatifs et d'habitudes pécamineuses. On va dénoncer ici l'auto-malédiction. Je suis nul. Si vous dites toujours « je suis nul », vous mettez une malédiction. Et oui, c'est Saint Jacques qui nous dit que notre langue, elle a le pouvoir de bénir et de maudire. Et souvent, ça commence par nous. Alors, on aurait plein d'exemples à donner, mais je n'ai pas le temps. Il y a enfin donc ces cas particuliers de personnes tourmentées à cause de leur amour pour Dieu. C'est quand même assez rare. On va citer Sainte Mariam de Bethléem, que nous connaissons quand même dans notre diocèse, qui a eu un état de possession pendant 40 jours, comme vous le savez. La bienheureuse Alexandrina de Balazar, portugaise, le saint curé d'Ars. Bon, lui, ce n'était pas de la possession. Il était tourmenté, le Padre Pio Martrobin. Voilà. Alors, dernier chapitre et important, la façon de résister ou d'échapper aux tactiques du démon. Vous savez, on m'a proposé d'aller voir un film sur le démon qui va sortir à la fin du mois. J'ai refusé. Il s'appelle Nefarious, vous pouvez aller le voir. Mais j'ai refusé d'aller voir ce film. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle que du démon dans ce film. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas parler que du démon. C'est lui faire trop de publicité. Et souvent dans les films, on vous fait peur. Vous savez, les têtes qui tournent à 360 degrés, ça lévite, etc. Non, mais attendez, de qui se moque-t-on ? Parce que c'est la tactique du démon de nous faire peur. Or, sachez que le démon a peur de vous, oui, je dis bien a peur de vous, dès que vous êtes avec Dieu. Qu'on se le dise. Alors, il y a quand même une réalité du combat spirituel. Je vous renvoie à Éphésiens 6. Vous connaissez tous par cœur Éphésiens 6. À partir du verset 10. Voilà. 1 Pierre 5, 8. On le lit à toutes les complies du mardi soir. En fait, ce qu'on va retenir, c'est que nous avons des armes à prendre. Et ces armes, c'est quoi ? C'est d'abord la foi. Proclamer notre foi, ici et maintenant, proclamer effectivement et décider de vivre avec Dieu, c'est-à-dire donner notre vie à Jésus, quoi. J'espère que chacun d'entre nous a donné sa vie à Jésus. On n'a rien à craindre, hein, de donner sa vie à Jésus. On ne va pas rester dans un lit cloué comme Martrobin pendant 50 ans. Donner véritablement sa vie à Jésus, ça c'est la grâce du baptême. Parce que dans le baptême, nous sommes plongés dans le Christ. J'aime beaucoup les baptêmes par immersion. Nous sommes plongés dans le Christ. Voilà. Alors, pour faire un petit résumé de comment nous tenir en dehors de ces influences démoniaques, je dis bien en dehors, c'est quand même assez simple. La prière et le jeûne. Le jeûne va avec la prière. Le rosaire est une arme, oui, mais pas parce qu'on débite des « Je vous salue Marie, pleine de grâce », etc. Ça, c'est pas la prière. La prière, c'est avec le cœur. Parce qu'on ne fait pas une magie contre magie. Vous savez, il y a des gens qui ils font comme le commerce des prières efficaces. Moi, je n'y crois pas aux prières efficaces. La foi est efficace. La prière en tant que formule n'est pas efficace. Est-ce que je me fais comprendre ? Nous ne sommes pas magie contre magie. La prière n'est pas une formule. La prière est un élan du cœur, nous dit la petite Thérèse, citée dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, Le fameux Zachary King dont nous parlions tout à l'heure quand il était exorciste, il raconte qu'il n'a pas pu provoquer un avortement parce qu'il y avait toute une équipe qui priait le rosaire, là. Il n'a pas pu. Je pense aussi à ce sataniste américain. Bon, je n'ai pas retrouvé son nom malheureusement, mais lui, il était un peu comme Zachary King. Et un jour, il va quitter le démon. Pourquoi ? Parce que vous savez, dans le satanisme, vous avez un certain nombre d'initiations. Et dans une initiation, il faut tuer. D'accord ? Et il avait comme mission, cet homme-là, d'aller tuer par magie noire. Un chrétien. Puis il n'a pas réussi. Et le démon lui dit, moi je ne peux pas l'avoir parce qu'il est chrétien. Et c'est là qu'il a quitté le démon, il l'a engueulé, il lui a dit, tu m'as trompé, je croyais que c'était toi le plus fort. Ok ? Donc, la prière, le jeûne, le rosaire, la louange. La louange, saint Augustin nous dit, qui bien chante, deux fois prie. Donc, allons-y. Vous savez, dans des exorcismes, j'ai souvent ma guitare et je vous promets que pendant les prières de louange, le démon hurle. Il n'aime pas ça du tout. Alors, on ne va pas s'en priver. Louons le Seigneur, surtout lorsque nous avons le cafard, lorsque nous avons du mal avec la foi. Louons le Seigneur. Ça sera dur peut-être au début, mais après c'est comme une vieille armoire. Vous voyez, ça grince au début, mais après ça grince plus du tout. La parole de Dieu, bien sûr. Et puis, incontournable, j'aurais dit le dire en premier, la confession, le sacrement de réconciliation, c'est le premier exorcisme. Le sacrement de réconciliation. Alors, profitons-en. Et puis, bien sûr, l'Eucharistie. L'âme qui est unie à Dieu, nous dit saint Jean de la Croix, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Voilà. Pour terminer, ou presque, vous vous rappelez ce songe de la petite Thérèse ? Elle se voit toute petite. Elle était toute petite. Et dans son rêve, elle voit, elle avait 4 ans, et elle voit près de la tonnelle deux affreux petits diablotins qui dansaient avec une agilité surprenante, malgré des fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Et tout à coup, ils jetèrent sur moi leurs yeux flamboyants, puis au même moment, paraissant bien plus effrayés que moi, ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face. Conclusion un peu plus loin. Je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant. Sachez aussi que vous avez autorité sur les démons. Oui, vous avez autorité. Si vous êtes croyant. Croyant, ça ne veut pas dire que Dieu existe. Hein. Le démon, il croit que Dieu existe. Croyant, c'est adhérer de tout son cœur. Alors, rappelons-nous la finale de l'évangile de saint Marc, que finalement, ceux qui croient, eh bien, en mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Alors, vous voyez, chez les évangéliques, on est souvent, j'allais dire, assez audacieux. Il faut que nous, catholiques, nous soyons plus audacieux pour oser prier pour les malades, Et puis, effectivement, oser prier. Alors, pas forcément sur les possédés, puisque, vous savez, dans l'Église catholique, cette prière est réservée à l'exorciste diocésain. Mais vous avez quand même des degrés bien inférieurs où je vous encourage à prier. Oui, n'ayez pas peur. Voilà, on va terminer. Je voulais juste aussi, pour si vous avez vous-même des problématiques de délivrance pour votre vie, sachez que il est important de renoncer à toute pratique mauvaise qui ouvre les portes, bien sûr. Mais ce qui est très important aussi, c'est le pardon. Sans pardon, on ne peut guère vivre une délivrance. Pardonner du fond du cœur, et ça avec la grâce de Dieu. Voilà. Alors, dernière chose, toute dernière, c'est promis, c'est la dernière. L'Évangile nous dit, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y rentrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Alors c'est pourquoi, bon, moi-même en tant qu'exorciste, je refuserais de prier pour une personne qui refuse de se convertir. Parce que c'est dangereux, vous voyez ? On peut effectivement, par la prière, obtenir, grâce à Dieu, un résultat qui est peut-être encourageant, mais ça ne va pas durer. Et après, la personne risque vraiment. Voilà. Alors, les personnes qui nous demandent ce type de prière, nous allons évidemment les inviter à entrer dans une vraie démarche de conversion personnelle. Parce que le fait d'expulser les démons et de guérir les malades va avec le fait d'annoncer l'Évangile, inséparable. Nous ne sommes pas des magiciens, voyez, des gens peut-être plus forts que d'autres, non. Au nom de l'Église, nous proposons le chemin de la lumière, qui est le chemin du Christ. Nous allons terminer juste par une prière. Je vous invite à vous lever. Prière à la Sainte Vierge du pape Jean-Paul II. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une piété fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Amen. Merci beaucoup.
Comme on se réunit à la